Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. 3 titres, on se serre la ceinture faute de croissance. Un nouveau plan d'économie présenté par Bruno Le Maire. Des résultats records annoncés par EDF, mais attention au trompe-l'œil. Et puis les stations de ski font le plein pour les vacances d'hiver. En automobile, on appelle ça calé. L'économie française s'apprête à vivre une année morose avec une réalité toujours difficile à accepter, la fin de l'argent gratuit. Bruno Le Maire était hier sur TF1 dans le rôle du perle à rigueur. Bonjour Éric Kioch.
Bonjour Charles, bonjour à tous.
Le ministre de l'économie annonce moins de croissance et donc plus d'économie.
Oui, en cause une prévision de croissance revue à la baisse, alors que depuis des mois, le gouvernement ne cesse de se féliciter de la résilience de l'économie française. C'est donc un dur retour à la réalité. En 2024, la croissance devrait se situer autour des 1%, loin des 1,4% initialement annoncés. En cause, selon le ministre de l'économie, les remous de la guerre en Ukraine et les tensions au Proche-Orient qui viennent s'ajouter à une économie chinoise toujours en panne et une Allemagne en récession en 2023. Face à ce constat, pas d'impôts supplémentaires, promet le patron de Bercy. En revanche, on gagne moins, on dépense moins, a affirmé Bruno Le Maire comme un slogan pour 2024. Objectif, 10 milliards d'euros d'économie sur les dépenses de l'État pour maintenir le déficit budgétaire à 4%. Cela peut être sur l'énergie, l'immobilier, les achats, a-t-il précisé. Dans les détails, 5 milliards devront être économisés sur les dépenses de fonctionnement de tous les ministères, 1 milliard sur l'aide publique au développement, 1 milliard sur MaPrimeRénov' ou encore en contribution des opérateurs de l'État. Néanmoins, pas touche à la sécurité sociale ni aux dépenses des collectivités territoriales.
Éric Kioch, les trains reprennent leur marche aujourd'hui. La grève a pris fin hier, privant 15 000 voyageurs de train. Et après les contrôleurs, les aiguilleurs menacent à leur tour de faire grève en fin de semaine. Et une nouvelle fois, le mouvement part de la base, plus délicat à gérer pour la direction qu'une mobilisation syndicale. Zoé Pallier.
Décembre 2022, un groupe Facebook fraîchement créé attire plusieurs milliers de contrôleurs SNCF qui lancent une grève nationale.
Ça a été une surprise pour la direction comme pour les syndicats.
Bernard Vivier, directeur de l'Institut supérieur du travail.
Ce mouvement a bloqué tout le week-end de Noël. Ça a été réglé par une opération conjointe entre la direction et les syndicats. Les syndicats ont réussi à négocier parce que des collectifs n'ont pas le droit juridique d'entamer des négociations.
Le scénario se répète aujourd'hui, mais cette fois-ci, un syndicat, Sudrail, accompagne le mouvement. Les autres sont plus méfiants face à ce collectif qui n'a ni porte-parole, ni souci de l'opinion publique, pointe Rémi Bourguignon, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil.
La grève, un jour de départ en vacances, est évidemment très impopulaire, mais ce n'est pas leur souci. La coordination des contrôleurs n'a pas vocation à s'élargir ou organiser des travailleurs dans d'autres secteurs d'activité. D'ailleurs, ils ne sont absolument pas demandeurs de mouvements qui dépassent leur propre profession. Et donc, libérés de cette contrainte, ils peuvent s'engager dans des actions beaucoup plus radicales.
Plus dispersés aussi, car d'autres revendications corporatistes peuvent émerger au sein de la même entreprise, en l'occurrence la SNCF, avec par exemple un autre mouvement spontané, celui des aiguilleurs.
EDF brille, les résultats sont historiques, quasiment 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un résultat net de 10 milliards et une dette réduite. Tout va bien pour le groupe, porté par la reprise de la quasi-totalité des centrales nucléaires et des prix sur le marché élevé, mais Céline Cajolis, attention aux investissements qui attendent EDF.
Les chantiers compliqués et onéreux ne manquent pas. D'ici à 2050, EDF doit construire au moins 6 EPR pour 50 à 60 milliards d'euros qui ne sont toujours pas financés et probablement 8 supplémentaires en option. L'électricien doit aussi regarder de près le sujet des petits réacteurs, les SMR, qui viendraient en appui des centrales. Le groupe doit aussi débourser 25 milliards d'euros par an pour maintenir les infrastructures en l'état et investir dans les 16 prochaines années près de 96 milliards d'euros pour accompagner la transition énergétique d'Enedis. Il faut aussi prévoir une cinquantaine de milliards d'euros pour le grand carénage des centrales qui prolongera leur durée de vie. Autre dossier important, celui de la construction de 2 EPR en Grande-Bretagne. Le chantier d'Hinkley Point aura entre 2 et 4 ans de retard. EDF a déjà déprécié près de 12 milliards d'euros d'actifs et est actuellement en discussion avec le gouvernement britannique pour trouver une aide au financement du chantier. Le surcoût est pour l'instant estimé à au moins 7 milliards d'euros. Enfin, dernier élément important, EDF ne pourra peut-être pas, dans les prochaines années, compter sur la hausse du prix de l'électricité et sur le marché de gros, comme ça a été le cas depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui aurait évidemment un impact sur le niveau de ses résultats.
La hausse des prix provoquée notamment par la guerre en Ukraine qui va entrer dans sa troisième année. Ce samedi, la France s'engage à fournir 3 milliards d'euros d'aides supplémentaires avec une gamme assez large entre les véhicules blindés, les mortiers, les groupes électrogènes, le tout avec 3 sources d'approvisionnement. Marc Chassillan est spécialiste de l'armement militaire.
Nous nous défaisons de l'ancien matériel qui est remplacé par du neuf dans nos armées. Par exemple, ce sont les véhicules de l'avant blindé qui sont des véhicules blindés de transport de troupes. On a fourni plus de 200 à l'Ukraine. Ensuite, il y a des matériels directement pris dans nos régiments. Donc ça a été les premiers César. Et puis il y a les matériels neufs. Monsieur Lecornu a annoncé que la France allait fournir 12 César flambant neufs sortant d'usine. Donc on va poursuivre le recours aux 3 sources de matériel parce que nos armées vont continuer à se défaire de matériel ancien. Mais on va mettre un peu plus l'accent maintenant sur le matériel neuf payé avec des lignes de crédit soit européennes, soit purement françaises.
6h55, c'est une habitude pour une partie des Français. Profiter de cette semaine de vacances d'hiver pour aller à la montagne. C'est la deuxième semaine de vacances pour la zone C, la première pour la zone A. Bonjour Jean-Luc Bloch.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association des maires des stations de montagne et maires de la plaine tarentaise. Y a-t-il du monde à la montagne pour ces vacances ?
Alors on a de la chance, oui. On va dire quand on voit l'information au niveau local et national, on se rend compte que les Français, puisque c'est notre principale source de vacanciers, 70%, je le rappelle, des Français prennent leurs vacances à la montagne en France, ben ils sont là, ils sont présents et ils profitent de la neige en altitude, ils profitent du soleil et en tout cas, ils ont vraiment, vraiment envie d'éviter toute la morosité.
Grâce à une bonne météo ?
Oui, la météo est clémente. Malheureusement, il n'a pas neigé partout comme on aurait voulu que ça se passe et on assiste par endroits à une difficulté par rapport à un enneigement qui fait défaut.
On a dit un mot de la météo, parlons climat et dans le futur, avec le changement climatique, est-ce qu'on peut imaginer que des stations puissent disparaître ?
Alors les stations qui ont été conçues à l'origine en très basse altitude, à 800-900 mètres d'altitude, avec une exposition vers son sud et sans vent retour d'est, pour faire un petit peu technique, risquent d'avoir des difficultés. Bien entendu, ce dérèglement climatique, il a des effets beaucoup plus larges au niveau de la montagne que partout ailleurs. Donc à nous d'être vigilants, d'être prudents et de prévoir l'avenir.
Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à diversifier votre activité ?
Alors, elle se diversifie depuis pas mal d'années déjà. Ça fait plusieurs années, une dizaine, vingtaine d'années en tout cas, que la plupart d'entre elles ont misé déjà sur la saison estivale, sur l'intersaison, et commencent à diversifier l'offre.
Avec
mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est encore le ski qui fait venir les vacanciers en hiver à la montagne.
Avec quel type d'activité ?
On peut mettre des chiens de traîneau, on a mis en place des tyroliennes, des via ferrata, des via cordata, beaucoup de vélos et surtout le vélo assistance électrique qui est un pur bonheur en montagne pour permettre aux familles et aux enfants de suivre les parents et tout cela en activité qui permet d'être fonctionnel. Mais ne jamais oublier que même si on a un réchauffement, même s'il y a un dérèglement, les températures restent quand même fraîches en hiver.
Merci Jean-Luc Bloch, le président de l'Association des maires des stations de montagne, invité du journal de l'Écho de Radio Classique. Dans moins de 30 secondes, la météo et puis un retour. Le retour de...